On a commencé une série pour le mois de novembre sur les personnes de la liste dans Hébreux 11, donc des héros de la foi. Je ne sais pas si vous connaissez cette liste avec tous les noms des personnes. Je ne sais pas si vous avez fait attention, il y a toujours le même refrain qui revient. Forcément, c'est un refrain, donc ça revient. Est-ce que vous avez fait attention à ça? Ils ont cru. Ils ont eu la foi. Ils ont fait confiance à Dieu. Dans la fin du chapitre, au verset 39, il est écrit que Dieu a approuvé tous ces gens à cause de leur foi, à cause qu'ils ont cru. Et c'est pourquoi ils sont appelés des héros de la foi. Dans cette liste, on a Barak. Barak. Je l'ai choisi parce que, premièrement, je trouve que son nom est drôle. Deuxièmement, parce que c'est pas une personne qu'on entend souvent parler et il n'a pas fait de grandes choses, il n'a pas tout cassé. Barak, est-ce un héros de la foi? Et pourquoi c'est un héros de la foi? On va regarder un peu son histoire qui se trouve dans l'Ancien Testament, dans le livre des Juges, au chapitre 4 et 5. C'est une histoire qui se passe entre 1300 avant Jésus-Christ et 1000 avant Jésus-Christ, donc c'est un peu loin. Le contexte, le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, ça, souvent, on arrive à capter ce moment dans l'histoire. Le peuple est sorti de l'Égypte, il est resté 40 ans dans le désert, à errer. Moïse, le chef de file, a commencé à conquérir un territoire, le territoire de Canaan. Puis, à sa mort, il a passé le relais à Josué. Et en même temps, il lui a dit, « Bon, tu as encore du boulot, mais le problème, c'est que le peuple va se détourner de Dieu. » Josué meurt, ainsi que tous les gens de sa génération. Effectivement, le peuple fait n'importe quoi. Le peuple commence à rendre des cultes à d'autres dieux. Des dieux auxquels ils ont autour d'eux, parce qu'ils n'ont pas des peuples autour. Ils adorent des dieux, des païens, des peuples alentour d'eux, autour de chez eux. Et Dieu veut le reprendre en disant « Revenez à moi ». Dieu va faire en sorte qu'il n'arrive pas à conquérir le territoire comme il devait faire. Et encore une fois, dans le livre des Juges, on a toujours le même refrain. Au chapitre 2, il est écrit « Quand le peuple sera soumis et gémira sous le poids de l'oppresseur, Dieu enverra un chef pour le délivrer ». Le problème, à la mort du chef, le peuple recommencera à se corrompre plus que les générations précédentes. On a une spirale comme ça descendante sur la morale, autour de la morale du peuple. Et voici, c'est ça le contexte de l'histoire. Donc on a un contexte assez difficile pour le peuple, assez difficile, assez guerrier. Il y a de l'oppression, il y a des guerres. Donc voilà, ça peut peut-être vous faire bizarre, ce texte, mais c'est dans ce contexte qui se situe. Il y a beaucoup de noms. Je vous préviens, il y a beaucoup de noms, beaucoup de noms de personnes, beaucoup de noms de territoires, de villes. Je vous invite à vous concentrer sur quatre personnes, avant de vous perdre, sur Déborah, sur Barak, sur Sisra et sur Yaël. Ce sera les quatre personnages principaux de notre histoire. Je l'affiche, mais je fais quand même la lecture. Je ne suis pas sûr que vous voyez assez bien. Après la mort d'Ehud, les Israélites firent de nouveau ce qui déplaît au Seigneur. Le Seigneur les livra à Yabin, un roi cananéen qui résidait dans la ville de Hazor. Le chef de son armée était Sisra, qui habitait à Harosheth-Goïm. Yabin possédait 900 chars de fer et il opprima durement les Israélites pendant 20 ans. Alors, ceux-ci appelèrent le Seigneur au secours. À cette époque, Déborah, femme de Lapidote, qui était prophétesse, rendait la justice en Israël. Elle siégeait sous un palmier, appelé ensuite palmier de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la région montagneuse d'Éphraïm. C'est là que les Israélites venaient la consulter. Un jour, Déborah convoqua Barak, fils d'Abinoam de Kedesh, dans le territoire de Nephtali. Elle lui dit « Voici ce que le Seigneur Dieu d'Israël t'ordonne. va recruter 10 000 hommes dans les tribus de Nephtali et de Zabulon et conduit-les sur le mont Tabor. J'inciterai Sisra, chef de l'armée de Yabin, à venir au torrent de Kishon pour t'attaquer avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai en ton pouvoir. » Barak répondit à Déborah, « Si tu viens avec moi, j'irai. Mais si tu ne viens pas, je refuse de m'y rendre. Je t'accompagnerai donc, déclara-t-elle. Cependant, tu ne tireras aucune gloire de cette expédition, car c'est à une femme que le Seigneur livrera Sisra. » Bon, est-ce que je pourrais avoir la page suivante ? Ah, super, merci. Déborah se rendit à Kedesh avec Barak. Celui-ci y rassembla les tribus de Naphtali et de Zabulon. 10 000 hommes décidèrent de le suivre, et Déborah elle-même partit avec lui. Près de Kedesh se trouvait Héber, le Kénite. Il s'était séparé des autres Kénites, descendants de Hobab, le beau-frère de Moïse, et il avait planté sa tente à côté du chêne de Sananim. Sisra apprit que Barak, fils d'Abinoam, était monté sur le Tabor. Il rassembla ses 900 chars de fer et tous ses hommes à Haroshet Goïm, puis de là, ils se rendirent au torrent de Kishon. Alors Déborah dit à Barak, « En route, c'est aujourd'hui que le Seigneur va te livrer Sisra. Le Seigneur lui-même marche devant toi. » Barak descendit du mont Tabor à la tête de ses 10 000 hommes. Il se lança à l'attaque et le Seigneur mit en déroute devant lui Sisra, tous ses chars et toutes ses troupes. Sisra abandonna son char et s'enfuit à pied. Barak poursuit les chars et l'armée ennemie jusqu'à Haroshet Goïm. Les troupes de Sisra furent massacrées. Il ne resta pas un seul homme. Sisra s'enfuit en courant jusqu'à la tente de Yael, femme de Héber le Kénite, parce que la paix régnait entre la famille de Héber et le roi Yabin de Hassor. Yael sortait au devant de Sisra et lui dit « Entre ici, mon général, entre chez moi, n'aie pas peur. » Il entra dans sa tente et elle le cacha sous une couverture. Il lui dit, « S'il te plaît, donne-moi un peu d'eau à boire, j'ai soif. » Elle ouvrit l'outre contenant du lait et lui donna à boire. Puis, elle remit la couverture sur lui. Il lui dit encore, « Reste à l'entrée de la tente. Et si on vient te demander, y a-t-il quelqu'un ici ?» Tu répondras, « Non. » Sisra, épuisé de fatigue, s'endormit profondément. Yael prit alors un marteau et un piquet de la tente, et s'approcha doucement de lui. Elle lui transperça la tête avec le piquet qui s'enfonça dans le sol. Sisra en mourut. Là-dessus, Barak, qui était à la poursuite de Sisra, arrive. Yael sortit au devant de lui et lui dit « Viens, je te ferai voir l'homme que tu cherches. » Il entra dans la tente et découvrit Sisra étendu mort sur le sol, la tête transpercée par le piquet de tente. Ce jour-là, Dieu permit aux Israélites de remporter la victoire sur Yabin, le roi cananéen. Ils s'acharnèrent de plus en plus contre lui et réussirent finalement à le tuer. Voilà notre lecture. Vous avez vu qu'il y a plein de noms. C'est aussi un peu bizarre, surtout la fin. Nous sommes dans un contexte de guerre. Les peuples alentours se moquent complètement de Dieu et font tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. On a aussi le chapitre 5, que je vous fais grâce. C'est un cantique de Déborah qui chante la victoire de cette guerre. Et on apprend d'autres éléments sur le texte, sur le récit, sur l'histoire de l'événement qui s'est passé, et je ferai quelques allusions pour appuyer quelques propos. Barak est-il un héros de la foi ? Est-ce que, à la lecture, à l'écoute de ce texte, Barak vous semble être le héros de l'histoire ? Déborah est juge en Israël. Elle est juge et ça paraît normal. Tout le monde vient la voir. À cette époque, Déborah était prophétesse. Elle siégeait sous un palmier. C'est là que les Israélites venaient la consulter. Aucun problème. L'auteur ne mentionne aucun problème. Déborah est prophète et juge en Israël. C'est normal. Mais quand on regarde la réponse, l'appel de Déborah à Barak, la réponse qu'elle fait à Barak, quand Barak lui dit « Si, je ne viendrai pas si tu ne viens pas », que va lui dire Déborah ? Elle lui dire « tu ne retireras aucune gloire de cette expédition. » Et surtout, elle ajoute, « C'est à une femme que le Seigneur livrera Sisra. » On a quelque chose d'un peu bizarre dans ce passage. Déborah ne dit pas seulement, « Ok, vu que tu n'as pas écouté l'appel de Dieu, je livrerai Sisra à Gilbert, par exemple. » C'est un prénom bien sûr très commun hein, dans l'Ancien Testament. « Je ne livrerai pas Sisra, parce que dans d'autres versions, c'est Sisera. Donc Sisra à quelqu'un d'autre, mais à une femme. » Il ne précise même pas le nom de la femme. Comme pour mentionner qu'il y a quelque chose d'étrange. Étrange. C'est le principe que c'est une femme, à ce moment-là, qui est pointée du doigt. Que c'est une femme qui va le délivrer, le peuple. Le contexte, à l'époque, hein, quand même, c'est selon les hommes. Un contexte assez patriarcal. Et quand, je ne sais pas, vous n'avez pas fait attention, mais quand on lit les descriptions des personnes, d'où elles viennent, les hommes sont présentés suivant leur ascendance. Les femmes sont présentées suivant leur mari. Déborah, elle est femme de Lapidote. Yaël, elle est femme de Héber. Et Barak, il est fils d'Abinoam. Et ça paraît normal, hein, parce que l'auteur ne le mentionne pas, ça, il ne le pointe pas du doigt, c'est normal, il déroule. Quand les auteurs, je fais une parenthèse, hein, mais quand les auteurs signalent un problème, en général, c'est que c'est pas... quand les auteurs laissent l'histoire se conduire, sans rien dire, sans mettre de commentaires, très souvent, c'est que ça se passait comme ça à l'époque. Quand ils commencent à dire quelque chose, c'est qu'il y a un problème. Dans ce chapitre, la gloire finale revient à Yaël. Et Barak, il n'est qu'un maillon de cette réussite. Et encore pire, au chapitre 5, Barak est à peine mentionné. Juste dire que c'est le cantique de Déborah et de Barak. En revanche, Yaël, au verset 25, chapitre 5, il est écrit « Béni soit parmi toutes les femmes Yaël, femme de Héber le Kenite. Oui, béni soit-elle parmi toutes les femmes qui habitent sous tente. » Yaël, héroïne du chapitre 5. C'est un peu comme le buteur hein, qui marque le but final. Bien sûr, il y a tout un tas de monde, l'équipe derrière, mais c'est Yaël qui met le pieu final. Barak n'est pas le personnage central de ces deux chapitres. C'est une autre personne qui est le personnage central. Et je ne vais pas... La question de ce matin hein, n'est pas là de savoir pourquoi c'est une femme, pourquoi la raison de la femme. Ce n'est pas ça que je mentionnais. Ce serait une autre question. Je le pose plus en observation pour montrer qu'il y a un élément crucial, un élément bloquant en tout cas, qui nous montre que Barak n'est vraiment pas la personne centrale de ce texte. C'est une femme, Yaël, Déborah, mais Barak n'est pas très central dans ce texte, voire insignifiant. Barak, toujours notre question, comment il peut être un héros de la foi? Comment ça se fait que l'auteur de l'Épître aux Hébreux, donc 1000 ans après, puisse dire ça? Est-ce qu'il n'avait pas lu ce livre? Est-ce qu'il n'avait pas connaissance? Est-ce qu'il a écrit ça sur des mythes? Non. Justement, l'auteur avait bien connaissance. Alors pourquoi c'est un héros de la foi? Si on regarde à nouveau la réponse de Barak, il dit à Déborah, quand elle l'appelle, « Si tu ne viens pas avec moi, ou si tu viens avec moi, j'irai. Mais si tu n'y vas pas, je refuse de m'y rendre. » À ce moment de l'histoire, Barak doute. Il manque de confiance. Il a besoin d'être rassuré sur l'appel de Dieu. On ne sait pas pourquoi il a besoin d'être rassuré. Je peux vous proposer trois hypothèses sans vous donner de réponse. Comme Déborah est prophétesse, messager de Dieu, porte-parole de Dieu, représentante de Dieu sur terre, peut-être qu'il a besoin d'avoir Déborah à ses côtés pour dire Dieu est à mes côtés pour aller combattre? Hypothèse. Est-ce qu'il n'a pas entièrement confiance en Déborah? Il lui dit, ok, bah, tu veux m'envoyer au casse-pipe là-bas? Mais viens avec moi et puis on verra si c'est vrai. Peut-être. Est-ce qu'il doute simplement de ses capacités? Peut-être, on n'en sait rien. On ne sait pas les raisons de ses doutes. Ce qu'on sait, en revanche, c'est qu'une fois que Déborah lui dit « en route », il ne se pose plus de questions. Il y va. « En route », Déborah dit. « C'est aujourd'hui que le Seigneur va te livrer Sisra. Le Seigneur lui-même marchera devant toi. » Et on a Barak descendit du mont Tabor à la tête de 10 000 hommes. Il se lança à l'attaque et le Seigneur mit en déroute devant lui Sisra, tous ses chars et toutes ses troupes. À ce moment-là, Barak y va. Vous avez vu hein, les chiffres des personnes. Sisra, il a 900 chars bardés de fer. Donc, c'est pas mal pour une armée. Et il va à la guerre, Sisra va à la guerre avec tous ses hommes. C'est pas juste 5 000, 10 000, 15 000, non, c'est tout. Il a mis le paquet, quoi. Sisra, il va avec tous ses hommes, tous ses chars. Hop là. Israël, allez, ils sont seulement, c'est précisé le nombre, 10 000 hommes. Et si vous voyez les dénombrements, des fois, dans l'Ancien Testament, il y a un peu plus que 10 000 hommes de guerre, en général. Et en plus de ces 10 000 hommes, ils sont très peu équipés. Au chapitre 5, dans le Cantique, il est écrit qu'ils sont 40 000 soldats en Israël, mais pas un bouclier, pas une seule lance. Ils y vont avec un pistolet à bouchon, quoi. C'est un peu l'idée, hein. Les Israélites n'ont rien pour combattre. Déborah exagère. J'entends bien. Elle écrit un cantique, elle veut montrer en fait la providence de Dieu à travers ce cantique. Elle veut montrer qu'Israël n'est pas équipé et qu'ils ont besoin de Dieu. Mais Barak le sait, et lui aussi, il y a eu un doute. Déborah l'a confirmé que c'était bien une parole de Dieu. Barak fait confiance. Il ne doute plus après dans l'histoire. Et même à la fin, il n'est pas question de revenir sur la gloire qui ne lui revient pas. Il ne va pas dire « Oh, la gloire, elle est partie, je ne l'ai plus. » Non. On n'a plus du tout d'écho de Barak. Il a fait ce que Dieu lui avait demandé. Bon et fidèle serviteur, comme on pourrait dire. Barak a eu confiance en Dieu. C'est pourquoi il est appelé un héros de la foi. Et non pas à cause de la victoire qui a été remportée. Il a douté. Déborah lui a confirmé que c'était une parole de Dieu. Il eut confiance. Il est un héros de la foi. Le doute. Son doute était assez légitime. Hein. On pourrait des fois pointer du doigt les personnes qui doutent. Là, il y a deux issues. Hein. Soit il vit, soit il meurt. Et comme il est donné à l'homme de mourir une seule fois, il ne faut pas rigoler avec ces choses-là. Barak, il vit ou il meurt, il doute. Dans nos vies, quelle est la place du doute? Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que nous pouvons douter? Est-ce que c'est légitime? Est-ce que Dieu va réprouver nos doutes? Ou nous blâmer parce que nous doutons? Dans les évangiles, on a l'histoire de Pierre, l'apôtre Pierre. Il voit Jésus marcher sur les eaux et il demande à Jésus pourquoi. On ne sait pas trop, de marcher lui aussi sur les eaux. Il va marcher sur les eaux, la tempête se lève, il a peur, il commence à couler. Jésus, étend sa main, le saisit et lui rappelle, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Thomas a douté que c'était bien Jésus qui était ressuscité, et il a fallu que Jésus lui montre bien que c'est lui qui était ressuscité. Et après quoi il va dire, « Mon Seigneur et mon Dieu ?» Le doute fait partie intégrante de la croissance des chrétiens, fait partie intégrante de notre cheminement avec notre Seigneur. Quand tout va bien, on arrive à faire confiance. Pierre, c'est un exemple parfait. Quand tout va bien, il fonce. Quand il y a un peu de problème, on le voit un peu coincé. Il commence à douter. Pour Barak, C'est pareil. Un jour, Barak a des doutes. Et c'est pas ça qui me remet en cause qui sera appelé un héros de la foi. Quand je serai grand, j'irai vivre en théorie. Car en théorie, tout se passe bien. Quand il n'y a pas de problème, c'est nickel. Avant les contrôles, je ne sais pas, moi je me souviens quand j'étais étudiant, et même avant les contrôles, ça va, je gère. Et une fois que la note est arrivée, on se dit, ah mince, ça coince un peu. Hein. En fait, c'était pas terrible. En théorie, tout va bien. Mais quand les choses arrivent, quand la tempête arrive, comment ça se passe ? Je rappelle que le doute de Barak avait de grandes conséquences. Nos doutes, ce sont lesquels ? Nos doutes sont souvent, est-ce que je vais faire ça ou ça ? Est-ce que Dieu me veut à cette place ? Est-ce que je vais faire ce travail ou ce travail ? Est-ce que je vais en prendre telle activité ou telle activité ? C'est souvent ces questions-là qu'on se pose. Il me semble qu'on se pose des fois mal les questions. On se pose au centre de nos questions. En effet, c'est bien de savoir ce que Dieu, ou ce plutôt, souvent on se pose au centre de la question « Qu'est-ce que tu veux pour moi ?» Et c'est plus souvent à ça les questions. Mais la question, elle est simple, la réponse est simple. Dieu veut que tu bosses pour vivre, que tu bosses pour gagner de l'argent, que tu bosses pour servir le royaume avec ton argent, pour servir le royaume avec ton temps. C'est ça la réponse de Dieu. Alors la vraie question qu'on devrait se poser, il me semble, c'est comment je vais pouvoir, par mes choix, être un meilleur serviteur de Dieu avec les dons naturels et spirituels dont il m'a doté et replacer Dieu au centre de nos questions et faire confiance qu'il va guider toute chose pour son royaume. Et il me semble qu'on confond la foi avec la volonté de Dieu. La foi en Dieu, c'est croire en ses promesses, croire qu'il dirige toute chose pour la réconciliation du monde avec lui, en tenant compte, bien entendu, de nos responsabilités. La foi, c'est croire que nous sommes ses enfants et qu'il nous garde. La foi, c'est un cadeau que Dieu nous donne et c'est lui qui l'a fait grandir, toujours en tenant compte de notre responsabilité. Parce que notre nature ne veut pas de Dieu. Et on s'aveugle par différents raisonnements. Que vous soyez chrétien ou non, vous devez vous battre pour laisser Dieu agir dans votre vie, pour laisser Dieu vous guider. Vous devez vous battre pour laisser taire votre moi, pour laisser la place à Dieu avec l'aide de son esprit en vous. C'est une lutte. Est-ce que Dieu a vraiment dit ça ou ça pour moi ? Est-ce qu'il m'a vraiment promis ça ou ça ? Et je rappelle, c'était sa question de Barak. Comment il a surnommé ce doute ? Comment il a surnommé ce doute pour pouvoir être appelé après héros de la foi ? Comment surnommer nos doutes pour être à notre tour appelé des héros de la foi ? Gédéon, encore, qui fait partie de cette liste, a demandé une double vérification pour voir si c'était bien Dieu qui lui demandait de faire ça. Et le prophète Jérémie, Moïse, ont douté de leurs compétences quand Dieu les a appelés. Est-ce que c'est vraiment moi que tu as voulu utiliser ? Est-ce que tu n'es pas trompé de personne, là ? Dieu lui répond, faites-moi confiance, je gère. C'est moi qui vais t'équiper. C'est moi qui vais mettre en déroute cette armée. Comment faire lever nos doutes dans nos vies ? Question pas évidente, il me semble. Premièrement, je dirais de se souvenir que rien n'échappe au contrôle de Dieu. que Dieu contrôle toute chose pour sa gloire et pour sa création, que Dieu veut le bien de sa création, de nous souvenir de ses promesses d'amour pour nous. Deuxièmement, je parlerai de prier. C'est simple, hein. Je ne veux pas révéler de nouvelles choses. Je nous rappelle juste la parole de Dieu. Prier et nous en remettre à Dieu. Prier et faire confiance, justement, que rien ne lui échappe, qu'il veut notre bonheur et notre paix avec lui. Chercher des réponses dans sa parole, dans sa Bible. Le partager avec nos frères et sœurs dans nos groupes de maison. Prendre des temps peut-être plus conséquents à certains moments pour rechercher la face de Dieu. Suivre le parcours 30 jours, par exemple. Un temps spécial que nous prenons ce mois de novembre pour pouvoir faire confiance au Seigneur. C'est pas possible de faire confiance en Dieu aveuglément. Si nous faisons confiance, si nous plaçons notre confiance en Dieu, c'est parce que nous avons des raisons de lui faire confiance. Nous avons des raisons de suivre Christ. Et pour ma part, plus j'avance dans ma relation avec lui, et plus je note quelque part, plus j'inscris des raisons de lui faire confiance, et plus je scelle, ou plus il scelle en moi notre relation. Et si vous voulez des exemples, je vous laisse lire et relire l'édito et le témoignage de ce mois-ci, dans le bulletin. Vous aussi, vous êtes des héros de la foi si vous croyez en Dieu comme Barak. Si vous mettez votre confiance en Christ qui vous réconcilie avec le Père. Être un héros de la foi n'est pas une finalité. Ce n'est que le début d'un cheminement, d'une croissance avec Dieu qui est aussi importante que d'être réconcilié avec lui. Vous aussi, vous êtes des témoins de Christ autour de vous. Vous êtes cette nuée de témoins. Je ne sais pas où vous en êtes, peut-être avec votre relation avec Dieu. Peut-être que vous n'en avez pas du tout. Mais sachez que vous êtes environné d'une si grande nuée de témoins ici. Des témoins qui ont placé leur confiance en Jésus. Des témoins, des personnes en qui vous avez confiance, si vous en avez amené ici ce matin, si vous avez confiance en eux. Voulez-vous, à votre tour, rejoindre cette nuée de témoins, ces héros de la foi? Comme nous le rappelait encore Chantal ce matin, ce qui fait votre valeur, ce n'est pas ce que vous faites pour Dieu, ce n'est pas d'où venez, votre sexe, vos orientations, ce qui fait votre valeur, c'est de savoir si vous êtes des enfants de Dieu. Si vous avez placé votre confiance en lui. La parole nous rappelle que si nous croyons en Dieu, nous êtes des enfants. Nous sommes des enfants de Dieu. On l'a chanté. Et comme nous le rappelait l'orateur à Connexion, le rassemblement de jeunes, on est des enfants et plus des esclaves qui devraient cocher une checklist pour dire « Ok, c'est bon, ça, j'ai fait ça pour Dieu, j'ai fait ça pour Dieu, j'ai fait ça pour Dieu, j'ai fait ça pour Dieu. » Non, on est des enfants, on a un statut. On ne doit pas cocher une checklist pour être enfant de Dieu. Ils ont tous cru en Dieu. C'est pour cela qu'on les a donnés en exemple. Verset 39 du chapitre 11. Barak, pour clore sur lui, a eu des doutes. Et à un moment donné, il a demandé une confirmation de la part de Dieu. Est-ce que c'est vraiment toi ? Il l'a fait de manière naturelle parce que Déborah était là, prophétesse, porte-parole de Dieu, envoyée de Dieu. Déborah lui a confirmé qu'il pouvait lui faire confiance. À notre tour, quand nous doutons, nous pouvons nous en remettre à Dieu, nous rappeler de ses promesses, nous souvenir ce qu'il nous promet pour nous, pour nos vies, pour notre réconciliation avec lui. Et nous souvenir de ces grandes, je dirais, idées que Dieu nous aime et que Dieu veut la réconciliation du monde avec lui. Je propose de prendre un temps de silence pour réfléchir.